Vous écoutez On lit pour vous.
Cette anxiété qui paralyse l'avenir de jeunes adultes. Un texte de Roxane Liouzon, paru le 1er août 2024 dans Le Devoir. Comment se trouver un emploi quand on a de la difficulté à regarder quelqu'un dans les yeux, à parler au téléphone ou même à sortir de chez soi? C'est une montagne d'anxiété que tente de surmonter un nombre grandissant de jeunes adultes qui cherchent de l'aide dans les carrefours jeunesse-emploi, CJE, du Québec. Témoignage. Au CJE Thérèse de Blainville, Jérôme, Samuel et Noah font partie d'un groupe qui revient d'une partie de mini-golf disputée par une chaude journée ensoleillée. Ça a l'air banal comme activité, mais ça permet de créer des liens, de s'encourager les uns les autres, d'avoir des conversations décontractées avec les jeunes, explique l'intervenante Marie-Josée Rochon. Il y a quelques mois, Noah, 20 ans, n'aurait jamais participé à un tel exercice social. Il n'aurait pas non plus accordé d'entrevue au Devoir. « Je venais de retourner vivre chez ma mère et je ne faisais rien. Je ne sortais pas, je ne marchais pas non plus. J'étais enfermé dans ma chambre avec ma sœur et on écoutait des séries. Maintenant, je marche pour venir ici, 3 fois par semaine, raconte Noah, qui, à l'instar des autres jeunes, préfère ne pas donner son nom complet pour éviter de nuire à son parcours en employabilité. C'est la mère de Noah qui lui avait suggéré de demander de l'aide au CJE. Le premier mois, je ne suis pas venu aux activités. Ça me tentait, mais j'étais trop gêné, je ne connaissais personne. Le deuxième mois, j'avais fini une activité et j'avais trouvé ça bien. J'en ai refait d'autres, poursuit-il. Ces activités varient. On peut notamment confectionner des savons ou des collations, entretenir un jardin collectif, faire de la méditation ou participer à un groupe de soutien LGBTQ+. L'objectif est notamment de développer des compétences et une certaine confiance en sa capacité d'accomplir des choses. L'estime de soi, tout part de là, affirme Jérôme, qui a lui aussi traversé une période durant la pandémie où il ne se sentait plus capable de sortir de chez lui. J'avais un beau CV. Les gens de l'aide sociale ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas d'emploi, souligne-t-il. J'étais un peu paralysé avec des addictions, l'anxiété, la dépression. Tu ne peux pas te trouver un job quand tu as tout ce melting pot de problèmes non réglés. Au CJE, Jérôme a trouvé un groupe de jeunes adultes qui vivaient les mêmes problèmes que lui. Je ne pense pas qu'il y a un jeune qui vient ici qui ne soit pas anxieux, lance le trentenaire. Il s'y est donc fait des amis à vie, ce qui a contribué à le faire sortir de sa coquille. Il s'est particulièrement bien entendu avec Samuel, avec qui il fait de l'escalade et joue à des jeux vidéo. Quand Samuel est arrivé ici, il se cachait derrière une grosse barbe, une casquette, un capuchon et il regardait par terre. Maintenant, c'est une nouvelle personne, au niveau personnel et professionnel, capable d'entrer en relation, rapporte le travailleur social Olivier Charek. Samuel est maintenant prêt à commencer un diplôme d'études professionnelles. Noah a pour sa part réalisé une démarche d'orientation. Il se destine à une carrière soit en thanatologie, soit en travail social. Un problème en augmentation. Les responsables de plusieurs CJE constatent une augmentation du nombre de jeunes aux prises avec des problèmes importants de santé mentale, en particulier de l'anxiété sociale. Il y en a beaucoup, de différents âges et niveaux de diplôme, indique Guylaine Turpin, directrice générale du CJE Saint-Hubert. Devoir appeler, parler, se vendre à un employeur, ils ne sont pas habitués. Tu ne peux pas texter un futur employeur. Selon Statistique Canada, les cas de troubles d'anxiété généralisée et de phobie sociale ont plus que doublé entre 2012 et 2022, les jeunes de 15 à 24 ans étant les plus touchés. Nathalie Parent, psychologue, autrice et conférencière, souligne que les communications chez les jeunes passent beaucoup par les réseaux sociaux depuis quelques années. Cela pourrait rendre plus difficiles les relations sociales en personne pour ceux qui ont déjà des traits de personnalité timide. Par ailleurs, dans le contexte de familles peu nombreuses, les jeunes sont possiblement moins exposés aux défis interpersonnels, souligne-t-elle. Finalement, le confinement imposé lors de la pandémie de COVID-19 est susceptible d'avoir aggravé le problème, croit Mme Parent, puisque beaucoup de gens ont dû réapprendre à interagir avec autrui. Les jeunes sont en construction. S'ils n'ont pas été en contact avec les autres pendant 2 ans, ça fait une différence dans le développement du cerveau, l'apprentissage d'être en relation, la construction de soi aussi, explique la psychologue. Des interventions plus longues. La pandémie a fait mal aux jeunes, indique aussi François Giroir, directeur général du CJE L'Assomption. Tout ce qui entoure l'anxiété a explosé. Les interventions sont plus longues. En effet, les changements ne surviennent pas du jour au lendemain. Au CJE Thérèse de Blainville, de nombreux jeunes, dont Jérôme, Samuel et Noah, ont bénéficié de plus de 100 heures de service, voire de plusieurs centaines d'heures. Or, Emploi Québec reconnaît un maximum de 75 heures pour chacun des jeunes inscrits, dénoncent les intervenants du CJE. En d'autres mots, Service Québec considère qu'ils ont été suffisamment aidés et ferme leur dossier, ce qui ne permet pas à l'organisme d'obtenir du financement pour toutes les heures passées à soutenir ces jeunes. Ce n'est pas vrai qu'après 5 semaines à 15 heures par semaine, ils ont nécessairement réglé tous leurs problèmes et peuvent aller travailler, déplore la directrice générale Nathalie Lachance, dont l'organisme continue de les aider malgré les difficultés financières. Son équipe refuse de laisser tomber les jeunes avant que leur démarche ne soit terminée. Si les problématiques sont trop importantes et prennent trop de temps, on se fait dire qu'on devrait les référer à des services psychosociaux, rapporte de son côté François Giroir. Or, l'accès à des services en santé mentale étant souvent un défi, il craint que ces jeunes soient laissés à eux-mêmes. On veut éviter le syndrome des portes tournantes, ajoute-t-il. Selon Statistique Canada, seulement la moitié des Canadiens atteints d'un trouble de santé mentale avaient reçu en 2022 une aide professionnelle. C'était « Cette anxiété qui paralyse l'avenir de jeunes adultes », un texte de Roxane Léouzon paru le 1er août 2024 dans Le Devoir.
La crise des surdoses cache une crise de deuil. Un texte de Todd Meyers, paru le 30 juillet 2024 dans La Presse. Todd Meyers est anthropologue médical et titulaire de la chaire Marjorie Bronfman d'études sociales en médecine à l'Université McGill. Je ne répéterai pas le nombre de morts. Vous le connaissez suffisamment pour savoir qu'une crise se déroule quelque part. Pour beaucoup, ce quelque part est resté ailleurs jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. La distance d'une surdose mortelle peut disparaître en un instant. Ce qui reste, ce sont les conséquences difficiles vécues par ceux qui survivent. Peut-être que les chiffres nous aident à évaluer l'ampleur du problème. Au moins 22 morts par jour à travers le Canada en 2023, mais ils en disent très peu sur la manière dont d'autres vies sont intimement liées à ces morts. Il est impossible d'expliquer la multitude de personnes souffrantes qui grandissent parallèlement ces chiffres. Nous n'avons aucun moyen direct de compter ou de nommer leurs souffrances. Lors de mes conversations avec des conseillers en deuil et des spécialistes de la fin de vie, je suis déconcertée par les défis auxquels sont confrontés ceux qui perdent quelqu'un à cause d'une surdose. Ils sont obligés de nager dans des sables mouvants, dit David Kennedy, professeur à la retraite et conseiller en deuil à l'Hospice Peterborough, en Ontario. Épuisé d'affronter le jugement et l'effacement qui entoure la consommation de drogue. Comme la moitié d'un couple qui a accidentellement fait une surdose, il a survécu et elle n'a pas survécu, me l'a raconté, la vie après une perte est un combat quotidien. Un deuil différent. La mort par surdose se distingue des autres formes de perte. La colère, la confusion, le déni, la culpabilité, le regret, la douleur. Tout cela voyage avec le chagrin parce qu'il s'agit de composantes du chagrin et de quelque chose de plus. La mort par surdose entraîne le sentiment écrasant que personne ne veut entendre parler de la douleur qui suit la mort. Les opioïdes ont provoqué une crise mortelle et une crise des façons de reconnaître ceux qui portent à la fois le fardeau de la perte et le sentiment qu'il n'y a pas d'écoute possible pour leur souffrance. Le besoin de faire son deuil est puissant et évident, mais la force corrosive de la dépendance liée à ce besoin l'est également. Oui, il existe d'autres types de décès qui compliquent le deuil. Le suicide en est un. Et oui, les tabous sociétaux et culturels qui entourent ces décès semblent les placer dans des catégories à part. Mais les gens qui aimaient une personne qui vient de mourir sont en deuil. Il n'y a rien d'autre. Récemment, des livres en anglais comme « The Grief Cure » de Cody Delistrati et « Grief is for People » de Sloane Crosley ont relancé les conversations sur nos attentes collectives en matière de deuil et de guérison de manière nouvelle et inventive. Besoin de nouveaux termes. Pour en revenir aux opioïdes, la photographe et militante Nan Golden et son groupe PAIN, Prescription Addiction Intervention Now, travaillent fort pour maintenir l'attention sur ceux qui ont causé la crise et donner la parole aux personnes qui en ressentent les impacts chaque jour. Une conversation sur le désespoir ressenti à la suite d'une surdose mortelle doit se frayer un chemin vers l'espace que d'autres ont ouvert pour l'accueillir. La plus récente édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux a reconnu le diagnostic de trouble du deuil prolongé, qui, avec quelques autres termes comme deuil compliqué et deuil complexe persistant, décrit le type de deuil intense et persistant qui perturbe la vie quotidienne. Il y a plusieurs décennies, nous aurions pu qualifier de mélancolie le deuil d'une personne persistant et invalidant. Aujourd'hui, nous avons cruellement besoin de nouveaux termes qui ne réduisent pas au silence ou ne pathologisent pas le chagrin inflexible qui accompagne une implacable crise de surdose mortelle. Nous avons besoin de mots pour exprimer l'énorme souffrance ressentie avec tant d'acuité par tant de gens depuis si longtemps. Le deuil est infatigable, alors il nous empêche de nous reposer. Nous devons nommer le chagrin qui est si étroitement lié à une surdose mortelle, encore et encore. Et il faut adopter le langage de la crise, car ce langage évoque l'urgence. Rattacher le deuil à la crise des surdoses qui l'a provoquée est un grand pas. Pourquoi? Parce que le chagrin qui suit une surdose mortelle sera à jamais bouleversant. Pas seulement pour une personne, mais pour tous ceux qui restent. Peut-être qu'intervenir du côté du langage quotidien ne semble pas grand-chose, mais comme l'a écrit la poète et philosophe Denise Riley après la mort subite de son fils, « Même si le langage est impuissant, c'est tout ce que nous avons. » C'était « La crise des surdoses cache une crise de deuil ». Un texte de Todd Mayers paru le 30 juillet 2024 dans La Presse.
Une petite histoire des vacances de la construction, un texte de Fanny Arcan, paru le 19 juillet 2024 dans la presse. Depuis plus de 50 ans, presque tous les travailleurs de la construction accrochent en même temps leurs casques et leurs outils pour prendre 2 semaines de congé en plein été. Survol de cette tradition spécifiquement québécoise. Des vacances de la construction, pourquoi faire? Les vacances de la construction visent à coordonner les chantiers à travers le Québec en imposant 2 semaines de congés généralisés à presque tous les travailleurs du domaine. Avec tous les différents corps de métier qui doivent être présents sur un chantier au même moment, ce serait difficile de garder un bon rythme de travail si les vacances s'organisaient au cas par cas, explique Joanne Brunet, conseillère aux affaires publiques à la Commission de la construction du Québec, CCQ, selon qui les vacances de la construction permettent aussi de recharger l'énergie des travailleurs à la mi-temps. En 2024, pas moins de 200 000 travailleurs de l'industrie de la construction du Québec ont congé pendant cette période, selon la CCQ. Un droit durement gagné. Si les vacances de la construction sont venues au monde, c'est d'abord car les travailleurs de l'après-guerre se sont battus pour ne pas avoir des conditions de travail dignes du 19e siècle et avoir droit à des congés payés, rappelle l'historienne Catherine Tourangeau. En 1946, les travailleurs québécois ont été parmi les premiers en Amérique du Nord à obtenir une semaine de vacances payées par année. En 1968, ils en ont obtenu 2. Parce que l'industrie de la construction est une grosse industrie et qu'elle ne peut pas éparpiller ses opérations dans l'année à cause de la température, c'est plus simple d'avoir 2 semaines spécifiques accordées aux vacances, ajoute l'historienne. Des négociations entre les syndicats, les entreprises et le gouvernement ont mené à l'imposition de 2 semaines de vacances au milieu de l'été pour les travailleurs de la construction en 1970. Selon Catherine Tourangeau, il s'agissait d'une question de bonne gestion pour ce grand secteur où la majorité de la main-d'œuvre travaille contractuellement et où les patrons changent rapidement. Une spécificité québécoise. Au Québec, le modèle des vacances de la construction tel qu'on le connaît demeure largement incontesté. Pourtant, on ne le retrouve nulle part ailleurs au pays, selon Catherine Tourangeau. Il n'y a pas d'autres provinces où ça existe, des vacances qui ciblent un secteur d'activité aussi précisément, affirme-t-elle. Les autres provinces canadiennes n'ont pas manifesté un grand intérêt envers un tel modèle non plus, ajoute l'historienne. Règle générale, l'État est un peu moins puissant dans les autres provinces, donc il y a peut-être moins d'intérêt à contrôler les périodes de vacances là-bas. Ils semblent assez satisfaits de leur modèle, souligne-t-elle. L'occasion de voir du pays. Les travailleurs de la construction sont loin d'être les seuls à prendre une pause pendant cette période. Selon Tourisme Québec, 22% des Québécois ont pris congé pendant les vacances de la construction en 2023. La plupart d'entre eux en ont profité pour visiter leur province. Pas moins de 67% des voyageurs planifiaient voyager au Québec pendant ces 2 semaines en 2023. Cet engouement fait le bonheur de l'industrie du tourisme. Les vacances de la construction sont, pour la Gaspésie, une forte période, tout comme pour les autres régions du Québec, souligne Judith Kilgour, coordonnatrice aux communications chez Tourisme Gaspésie. Les régions de Québec, 19%, des cantons de l'Est, 15%, et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 13%, sont les plus achalandées durant cette période, suivies de près par Charlevoix, 12%, le Bas-Saint-Laurent, 12%, et la Gaspésie, 11%. Plus risqué sur la route. Les longues distances à franchir et les soirées festives qui accompagnent les vacances de la construction en font une période plus risquée pour les conducteurs, selon la Société d'assurance automobile du Québec, SAAC. Pendant ces deux semaines, les accidents de la route font environ 1 500 morts ou blessés chaque année, soit en moyenne 19 personnes décédées, 83 personnes blessées gravement et 1466 personnes blessées légèrement. Les principales causes de ces accidents sont la fatigue, la conduite avec les facultés affaiblies, la distraction, les comportements imprudents et la vitesse, rappelle la SAC, qui appelle les Québécois à la prudence à chaque année. C'était une petite histoire des vacances de la construction, un texte de Fanny Arcan, paru le 19 juillet 2024 dans la presse.
Les cas d'insolvabilité en hausse et l'épargne en baisse au Québec. Un texte de Frédéric Lacroix-Couture de la presse canadienne, paru le 4 juillet 2024 dans le Droit d'Ottawa-Gatineau. Les cas d'insolvabilité suivent une tendance à la hausse depuis au moins un an. Le coussin financier constitué au début de la pandémie a fondu chez de nombreux Québécois qui ont maintenant du mal à joindre les deux bouts, observent des experts. Après avoir chuté en 2020, les taux de faillite et de propositions de consommateurs connaissent une augmentation depuis plusieurs trimestres, constate le président du conseil d'administration de l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation, ACPIR, André Bolduc. En mai dernier, les dossiers d'insolvabilité de consommateurs au pays se sont chiffrés à 12 195, rejoignant presque le niveau de mai 2019. Au Québec, ils ont atteint 3 110, soit un bond de 16 % par rapport à l'année dernière. À mesure qu'on s'est rétabli de la pandémie, les gens ont commencé à faire face de nouveau à leur situation financière. Des problèmes qu'on avait avant la pandémie, dont un ratio d'endettement élevé pour les Canadiens, sont toujours là aujourd'hui, affirme M. Bolduc en entrevue. Au premier mois de la crise sanitaire en 2020, les particuliers ont pu fortement épargner, grâce à des dépenses personnelles moins importantes et un sursis des créanciers pour les paiements. Mais cette époque avantageuse, où les surplus étaient au rendez-vous pour affronter les imprévus, est maintenant chose du passé pour plusieurs, observe aussi le président chez Jean Fortin et Associés, syndic en insolvabilité Pierre Fortin. Au fur et à mesure que les liquidités des consommateurs diminuaient, les soldes sur les cartes de crédit ont commencé à augmenter, je dirais à partir de début 2022. Et aujourd'hui, on a des soldes sur cartes de crédit qui sont à des sommets jamais vus, dit-il en entrevue. Selon M. Bolduc, environ un ménage sur deux au Canada vit de paie en paie, ce qui signifie qu'il n'a pas d'économie. Ce qu'on voit en ce moment dans nos bureaux parmi les clients, c'est que l'épargne semble avoir diminué. Les gens ont gratté tout ce qu'ils avaient durant la pandémie, après pour l'inflation et les taux d'intérêt, relate Sophie Deshôtels, syndic autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot. Et puis là, on a commencé à s'endetter. Et on tombe dans une roue. C'est plus difficile de faire les paiements mensuels pour ce qui est des cartes de crédit et les prêts, ajoute-t-elle. Le Québec en meilleure posture. M. Fortin constate que le Québec semble mieux s'en tirer en comparaison avec d'autres endroits au Canada. La belle province compte 20 % moins de cas d'insolvabilité actuellement qu'en 2019, alors qu'il y en a 17 % de plus en Ontario et 40 % de plus en Colombie-Britannique. Cette meilleure situation pour le Québec peut s'expliquer par un contexte plus favorable. La province compte un taux d'endettement pour le crédit à la consommation moins élevé et un taux de chômage plus faible, évoque M. Fortin. Mais, selon lui, le principal facteur repose sur le paiement hypothécaire. Il pèse moins lourd dans le budget des Québécois en raison d'une valeur moindre des propriétés. On a été moins frappé au Québec par l'augmentation des taux d'intérêt qu'en Ontario et en Colombie-Britannique. Donc, cela a un impact immense. Et nous, on le voit dans nos dossiers.
Très peu de gens viennent nous voir avec des problèmes financiers et qui sont propriétaires, beaucoup moins qu'en 2019, dit Pierre Fortin, président chez Jean Fortin et associé syndic en insolvabilité. Sophie Desautels note, pour sa part, un changement de profil parmi sa clientèle. On voit beaucoup de gens avec des actifs et des biens qui ont une certaine valeur, mais qui sont également endettés de plusieurs dizaines de milliers de dollars, indique-t-elle. Dans la grande majorité des cas au Canada, les dossiers d'insolvabilité mènent vers des offres de règlement, évitant ainsi la faillite. En mai dernier, ces ententes ont représenté 76 % des cas. Ce qui est important, c'est que les gens consultent un professionnel comme un syndic autorisé en insolvabilité pour voir c'est quoi leurs options. Plus tôt les gens peuvent faire face à la musique, le moins c'est stressant pour eux. Il y a des solutions. On a un bon système au Canada, soutient M. Bolduc de l'ACPIR. Entreprise. La hausse des cas d'insolvabilité frappe aussi le secteur corporatif. En mai, les insolvabilités d'entreprises au Québec ont diminué par rapport à avril, tombant de 3,6% à 325, mais ont été en hausse de 43,8% par rapport à l'année dernière. La conjoncture économique et les remboursements des prêts, notamment dans le cadre du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes du gouvernement fédéral, ont eu un fort impact sur la situation financière des compagnies, mentionne Étienne Fizet, associé et syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot. Parmi sa clientèle, il constate que divers secteurs d'activité sont présentement affectés par le contexte actuel. Il n'y a pas de profil type. On voit de tout. Des gens qui sont en restauration, des entrepreneurs en construction, des gens qui avaient démarré de nouveaux projets, et là, ils battent un peu de l'aile. On voit des gens dans le transport également, énumère M. Fizet. Selon les données du bureau du surintendant des faillites, le Québec a représenté environ 60 % des dossiers d'insolvabilité d'entreprises au pays en mai. Les entreprises québécoises serait davantage porté à faire des procédures formelles d'insolvabilité et de restructuration en raison d'un encadrement plus strict dans la province, selon M. Bolduc. Ce ne serait donc pas le signe de difficultés plus importantes pour les compagnies québécoises, alors que le taux de fermeture est plus bas au Québec, souligne-t-il. C'était « Les cas d'insolvabilité en hausse et l'épargne en baisse au Québec », un texte de Frédéric Lacroix-Couture de la Presse canadienne, paru le 4 juillet 2024 dans le Droit d'Ottawa-Gatineau.